retrouver votre dernier rendez-vous de la saison avec la médiatrice de Radio France autour de 13h20. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le théâtre doit-il renoncer à être politique, c'est-à-dire ne plus s'obliger à parler du monde ou se montrer critique à l'égard de la réalité? Qu'est-ce d'ailleurs qu'un théâtre politique? On en parle avec notre invité, l'historien Olivier Neveu, professeur à l'ENS Lyon et spécialiste, entre autres, d'esthétique du théâtre. 10 ans après Théâtre en lutte, une histoire du théâtre militant de 1960 à nos jours, il publie à la Fabrique contre le théâtre politique. Bonjour à vous, Olivier Neveu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Contre, tout contre, on pourrait dire même, puisque vous vous y frottez régulièrement à la scène, au théâtre, comme spectateur, grand amateur, vous l'êtes. Et cet essai est né, racontez-vous, de votre pratique de spectateur. Et de quel constat est-il né sur l'état de la création aujourd'hui ?
Il est né d'un constat un peu empirique au commencement, qui est que ça fait maintenant quelques décennies, 20 ans, que je travaille sur ces questions. Et il y a une vingtaine d'années, j'avais les grandes semaines, 2-3 spectacles à voir qui potentiellement revendiquaient de travailler sur des questions politiques, sociales, frontalement politiques. 20 ans après, je peux chaque soir, si j'en ai envie, voir 10, 20, 30, 40, 50 spectacles qui s'en revendiquent. Donc le constat est celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce que cela peut produire sur le terme même de politique, cette inflation de spectacles qui s'en revendiquent?
Il y aurait un impératif politique aussi aujourd'hui, presque une forme d'injonction. De qui viendrait-elle?
Alors, elle est.
Qui attend aujourd'hui des metteurs en scène, des dramaturges qu'ils produisent, qu'ils créent des pièces qui seraient politiques? Et on va finir par définir ce terme.
Ou ne pas le définir. Mais moi, d'abord, je précise que je travaille sur le théâtre public ou sur le théâtre qui devrait être public, c'est-à-dire subventionné par de l'argent public. Il y a de moins en moins d'argent, donc il y a de moins en moins de compagnies qui y accèdent. Je crois qu'il y a une demande qui a été intériorisée, qui est une demande de l'État, qui peut s'expliquer historiquement. Nous sommes dans une période néolibérale, extrêmement raide, extrêmement dure. Et le néolibéralisme a, parmi plein d'autres particularités, comme caractéristique de ne pas bien comprendre quoi faire de ce qui ne produit pas immédiatement de la valeur. Et donc évidemment le théâtre c'est une activité un peu stipendieuse, un peu luxueuse, un peu anecdotique ou bizarre dans une période qui doit être immédiatement rentable. Donc le néolibéralisme a enjoint subrepticement puis de plus en plus fortement aux artistes d'avoir une utilité qui serait immédiatement possiblement comptable. On pourrait dire ça en tout cas.
Un intérêt en fait. Il faudrait que le théâtre, quand même, se justifie des financements qu'il engendre, c'est-à-dire une utilité.
C'est-à-dire que l'État dit à quoi vous servez ? Et même aujourd'hui est prescriptif, c'est-à-dire qu'il faut servir à quelque chose. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, avant de pouvoir commencer à imaginer créer, sont sommés d'aller animer qui un atelier dans un hôpital, dans un EHPAD. Et l'idée évidemment c'est pas de venir stigmatiser cette pratique-là. Par ailleurs, il peut se faire des choses absolument magnifiques dans une école. Il peut se faire des choses. Donc être contre le théâtre politique, c'est de mon point de vue absolument pas défendre l'art pour l'art, le trône, voilà. L'espèce d'art idéaliste, pas du tout. C'est d'interroger cet impératif qui provient des tutelles et qui a été largement en partie intériorisé par les artistes qu'on a culpabilisés depuis Sarkozy, pour le dire vite, qui ont dit mais vous ne servez à rien, vous êtes un luxe inutile dans une période de crise, donc prouvez que vous servez à quelque chose.
Mais peut-être, il faut quand même se dire ce type de théâtre qui serait simplement esthétique, qui serait que sensible, devrait aussi pouvoir exister aujourd'hui. On ne peut pas dire que ça n'aurait plus lieu d'être et que des pièces qui n'auraient pas à justifier d'un message militant ou politique ne trouvent plus preneur dans le théâtre public, ce serait inquiétant aussi.
Oui, ce serait inquiétant. Après, je ne sais pas s'il y a des œuvres qui sont purement esthétiques et purement sensibles. C'est à chaque fois un mixte compliqué entre les deux.
Vous revenez aussi et mettez à distance dans cet ouvrage contre le théâtre politique un certain nombre de mythes qui nous empêchent d'y voir clair sur la fonction politique et sociale du théâtre, des mythes anciens. Lesquels, Olivier Neveu ?
Il y a une chose qui traîne, qui est l'idée que tout théâtre est par essence politique. Alors on va se réclamer d'Athènes pour ça, ce qui est une position relativement commode, puisqu'il suffit alors de mettre le pied sur un plateau pour faire acte politique. Ça ne veut pas dire, je précise bien que tout théâtre est politique ou tout est politique. Je m'inspire beaucoup du philosophe Daniel Ben Said, du philosophe et militant Daniel Ben Said, qui disait tout est politique dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point. Évidemment qu'il y a dans l'acte théâtral, parce que c'est un acte collectif, saisi dans une histoire, saisi dans une conjoncture, à certains égards, il y a évidemment une politique. Évidemment qu'il y a des orientations idéologiques, évidemment que ça s'inscrit dans des rapports de force, dans des rapports de domination. Mais ce que j'essaye de travailler dans l'ouvrage, c'est d'essayer de redonner ou de donner à la politique une consistance propre. C'est-à-dire, je crois que nous souffrons d'une confusion de la politique avec l'économie, la morale, la théologie. Qu'est-ce que pourrait être la politique en propre ? Et cette idée que tout théâtre est par essence politique nous dispense à bon frais quand même, ou à peu de frais en tout cas, de s'interroger sur ce qui est politique dans l'acte qui est commis.
Et cette idée aussi que plutôt que de penser ou considérer que tout est politique, on pourrait commencer à envisager ou se demander et considérer que tout peut être politisé. Mais dans quel sens l'entendre ?
L'idée, c'est de considérer que la politique est une opération. Je vais peut-être expliquer le titre. Contre le théâtre politique. Il s'agit absolument pas de venir interdire, d'abord qui je serais pour venir interdire au théâtre de traiter des questions politiques. Au contraire, je reste passionné par la façon dont le théâtre rend compte de son présent et du monde. Ce qui, me semble-t-il, est devenu problématique, c'est cette incapacité, ou en tout cas le fait que la politique ne vient pas embarrasser le terme de théâtre, et le théâtre n'embarrasse pas le terme de politique. À force de parler de théâtre politique comme d'une évidence, on ne travaille pas le rapport de l'un et l'autre et l'association que l'un peut produire à l'autre. Et je crois que politiser une situation, c'est produire une opération. Politiser une situation, ça n'est pas seulement la décrire, la constater, c'est la traduire dans des rythmes, dans un vocabulaire, dans une conception de l'intervention et de la pratique qui appartient au régime politique. Après, la politique, elle n'est pas imperméable, elle est évidemment intimement mêlée à des questions sociales et autres. Et donc, contre le théâtre politique, c'est pour qu'on arrive ou pour qu'on tente de réinventer, mais des artistes le font, hein, pour qu'on tente de réinventer des rapports féconds, embarrassés, polémiques, conflictuels entre théâtre et politique.
Et le théâtre n'est pas un lieu imperméable non plus, n'est pas un lieu hors du monde, c'est aussi un buvard, une éponge, il absorbe les humeurs, les soubresauts de l'époque. À partir de là, est-ce qu'il faut se dire qu'il y a comme une sorte d'injonction pour des metteurs en scène de donner aux pièces, aux œuvres qu'ils mettent en scène, une valeur des propres à l'époque du moment, de les charger d'enjeux qui ne seraient peut-être pas les siens au départ. Je pense à l'École des femmes de Stéphane Braunschweig, qui a été mise en scène cette année au Théâtre de l'Odéon à Paris, dans une très belle mise en scène par ailleurs, mais qui a été présentée comme essentielle, importante, fondamentale à le voir, percutante dans cette période post-MeToo.
Oui. Après, c'est une chose qui existe depuis très longtemps, hein, l'actualisation des classiques, l'idée que quelque chose du patrimoine, quelque chose des œuvres qui nous fondent peut évidemment parler du présent. De toute manière, on s'empêcherait de le faire, que ça adviendrait quand même. C'est-à-dire que, pour avoir vu l'École des femmes dont vous parlez, évidemment que l'actualité dans laquelle nous sommes, la parole libérée des femmes, évidemment qu'elle résonne et qu'elle entre en interaction avec l'œuvre. Et encore une fois, pour moi, il ne s'agit pas de venir dire l'actualisation est nécessairement naze, on n'a rien à en faire.
Nécessairement bonne pour autant. Enfin, je ne parle pas de cette pièce en particulier, mais c'est quand même cette idée qu'aujourd'hui, il faudrait toujours, pour répondre un peu à cette injonction dont vous parlez, Olivier Neveu, il faudrait toujours charger la pièce, la relire, la réinterpréter à la lumière du présent, comme si la pièce seule, telle qu'elle avait été pensée par l'auteur, ne valait plus ou ne valait pas.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, pour moi, le problème est une fois qu'on l'a mis dans le présent, qu'on a mis la pièce dans le présent, on n'a pas encore fait acte de politique. Le présent n'est pas nécessairement quelque chose qui a trait à la politique. Vous pouvez décrire une situation, vous pouvez parler d'une grève, vous pouvez parler du président Macron en dépolitisant absolument le regard. Et vous pouvez parler d'une chose qui, a priori, n'a rien à voir avec la question politique et proposer un regard sur cette chose qui la remet dans une dynamique politique.
Sur le rapport avec le public, je vous propose d'écouter ces mots d'Agnès Varda.
Moi, je trouve très extraordinaire que dès le début du TNP, ces choses-là aient été codifiées clairement, si tu veux, et que le public ait su qu'il ne devait pas s'habiller pour aller au théâtre, par exemple. Et aussi le fait que tu aies fait débuter le spectacle plus tôt que dans les autres théâtres, à une heure où, justement, Il est encore possible pour quelqu'un qui se lève tôt le lendemain matin d'aller au théâtre, de rentrer, de se coucher à une heure encore possible, d'avoir un métro, ne fût-ce que des problèmes aussi matériels et simples que ceux-là ont quand même été une des bases de la venue du public au TNP.
Mais oui, mais je ne pourrais pas l'expliquer autrement, soit à toi, soit d'ailleurs à moi-même, autrement qu'en disant que dans les théâtres privés, les rapports sont tout clairs et tout simples. Nous tâchons de vous donner le meilleur spectacle du monde, et comme on sait, cela est arrivé souvent, mais vous venez prendre votre place par les agences ou par le bureau de location, vous arrivez à 9h et à 11h30, on ne vous connaît plus. C'est une erreur. Je ne sais pas ce qui se passait dans les autres siècles. Moi, je vis dans mon siècle et je m'aperçois que le client doit être soigné. C'est une belle expression de mon père, peut-être, mais enfin, il faut faire attention à lui. Et encore une fois, je te rappelle que ce public n'a jamais influencé le choix des pièces.
Une discussion entre Agnès Varda et Jean Villard sur le lien aussi avec le public qui n'aurait pas influencé. Là, la perméabilité ou l'imperméabilité s'arrête là pour vous aussi, Olivier Neveu ?
Je sais pas, après, le modèle de Villard est un modèle un peu intimidant. Il y a quelque chose de pionnier, évidemment, dans la proposition qu'il fait. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Il pouvait s'appuyer sur des comités d'entreprise, sur une vie syndicale aussi qui était forte, sur peut-être une organisation du monde ouvrier, du monde social qui était différente. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faille abandonner ce projet. Il y a quelque chose chez Villard, effectivement, qui tient, qui est l'idée qu'il vient faire découvrir au public des œuvres qu'il ne sait pas encore aimer. Ou qu'il pourrait aimer et qu'il ne connaît pas encore. Il y a là effectivement une vraie mission, on va dire, civique. Après, ce qui est intéressant, c'est de réinstaurer Villard à l'époque où il était, aussi dans la polémique avec les Brechtiens sur cette notion de répertoire, cette notion d'adresse aussi.
C'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément l'approbation du goût du public.
Non, et c'est aussi l'une des caractéristiques du théâtre public. Et on peut que se lamenter de voir le théâtre public courir après la soirée des Molières et ce type de reconnaissance. C'est aussi, pour le coup, abandonner peut-être une part de cette exigence.
Pourquoi ?
Parce que les Molières, c'est une logique de la compétition, du succès, de la concurrence. Et le théâtre public, normalement, n'est pas à cet endroit-là.
Ou de la reconnaissance. Cette concurrence, pour vous, elle est entretenue, Olivier Neveu, par le système actuel. Vous montrez qu'il y a une culture du politique qui est aujourd'hui difficilement indissociable dans la manière dont elle est pensée des politiques culturelles. Cette concurrence, pour vous, elle est entretenue par les institutions.
Oui, après les institutions, elles sont toujours au croisement dans une dialectique entre institué et instituant, mais les institutions, elles sont prises dans la vague néolibérale qui est la nôtre et qui a quand même pour caractéristique d'organiser la guerre de chacun contre tous à chaque instant et donc une mise en concurrence immédiate. Et il n'y a pas de raison que le monde culturel y échappe.
Quelles sont les missions du théâtre telles que les attendent aujourd'hui pour vous, les institutions ? Vous avez commencé à l'évoquer avec le néolibéralisme que vous rapprochez du macronisme, ou le macronisme que vous rapprochez du néolibéralisme, avec ce côté utilitaire qui peut être attendu, de ces obsessions fonctionnelles qu'il peut y avoir aujourd'hui. On a parlé de ces vertus civiques, éventuellement, qui sont attendues. Un théâtre qui éduque, civilise, répare, engage, rassemble, cette fameuse idée du vivre ensemble. Mais pas seulement, il y a aussi la notion du divertissement que vous faites entrer en scène et celle de la production de valeur, lesquelles ?
Oui, c'est-à-dire que en quelque sorte, il y a un inconnu pour ce monde-là. C'est tout ce qui se distingue entre des gros succès. On a des œuvres aujourd'hui qui participent à l'export de l'impérialisme français et de son universalité, des œuvres qui tournent dans le monde entier. Et ça, on peut comprendre. Enfin, le néolibéralisme peut comprendre à quoi ça sert.
Une sorte de soft power.
Hein. Exactement. Avec parfois ça ne dit rien de la qualité des œuvres hein, potentielles, mais on a comme ça des grandes œuvres dont l'intérêt ne fait aucun doute à partir du moment où l'argent est investi dedans. Et puis il y a une multitude d'actions sociales, et ce qui est intéressant, c'est que les actions sociales qui sont exigées des artistes sont absolument contemporaines de la destruction du monde social et des travailleurs sociaux, de la PJJ, des éducateurs de rue, des bon. C'est-à-dire qu'on vient demander au théâtre de faire un certain nombre de choses que l'on empêche à ceux dont c'est le métier d'accomplir. Et donc on est pris là-dedans, les artistes deviennent en quelque sorte des supplétifs du monde social. Encore une fois, ça peut produire des grandes œuvres. J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre d'Armand Gatti, qui a travaillé avec des publics qui, a priori, n'étaient pas des publics spontanément dédiés à la question théâtrale, etc. Et qui a produit des très, très grandes œuvres, mais précisément en proposant des procédures de désidentification. C'est-à-dire en ne maintenant pas les gens dans leur identité sociale. Bref. Et donc, il y a cette immense masse d'œuvres, de créations incroyable, parce qu'il y a une richesse de la création, nous sommes dans un moment riche et fécond. Il se passe énormément de choses. Et c'est assez bouleversant de voir tous ces artistes travailler pour trois fois rien, par ailleurs, avec une stigmatisation extrêmement forte sur la démocratisation, l'échec, enfin, l'échec de la démocratisation culturelle, qui, encore une fois, a été sonné par Sarkozy. On a une multitude d'artistes qui travaillent. Et pour cela, à quoi ça sert? L'État ne sait plus. Et l'État ne sait pas. Et l'État n'est pas capable n'est plus capable, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de rapport de force pour lui imposer, de penser les missions de service public. Qu'est-ce que peut être un service public de la culture?
Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les questions d'identité, justement, mais aussi de mœurs, sont entrées beaucoup plus qu'avant sur les scènes du théâtre public?
Oui, mais heureusement, parce qu'elle traverse, la vie sociale. Ce serait absolument terrible d'imaginer qu'elle ne vienne pas percuter, les œuvres. Cela dit, je précise que je ne crois pas du tout en ce moment que les minorités sont à l'assaut de la République et sont en train de la faire trembler.
C'est-à-dire?
Comme on a eu un certain nombre de pétitions dans le monde récemment, autour des représentations d'une pièce d'Eschyle, qui criait à la barbarie, en se réclamant du camp de la civilisation, du juste, du beau, du bon. Je crois pas que... Et il y avait à peu près tout le théâtre français qui a signé, tous ceux qui ont du pouvoir dans le théâtre français, en tout cas une immense partie. Je crois pas que la menace ou que cette inquiétude soit très légitime.
C'était beaucoup de bruit pour rien pour vous, typiquement?
Non, c'est un symptôme. C'est un symptôme, mais c'est assez passionnant. Il se passe des choses. Il se passe des choses et il faudra les penser. Et à force d'éviter de les penser, ou en tout cas, à force de se réclamer du camp du juste et du bien, on empêche la discussion, pour le coup. On empêche peut-être de s'interroger sur ses propres réflexes spontanés, qui, quand même, spontanément, ne font que reconduire le monde dans l'état.
Mmh. Vous citez dans cet ouvrage Olivier Neveu, Contre le théâtre politique, qui paraît à la Fabrique aussi. Alors là, on est aux frontières avec le théâtre privé. L'engagement ou l'envie d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de porter sur la scène un théâtre qui ferait écho aux grandes questions sociétales de notre temps. Et notamment, c'était le cas encore récemment avec Jean-Marc Dumontet qui était venu promouvoir sur les plateaux son festival Parole citoyenne, qui pendant un mois reprenait une dizaine de spectacles dits engagés.
J'ai envie de montrer que le théâtre interroge, le théâtre participe à son niveau pour entretenir des débats, faire réagir le public et s'interroger sur nos différences. Donc on aborde tous les sujets. On va démarrer avec Chatouille, le spectacle d'Andréa Bescon sur les violences sexuelles faites aux enfants. On va poursuivre avec Lettre à Nour, qui est un spectacle entre un père et une fille sur le djihad. On va parler aussi de l'avortement avec un texte d'Annie Ernaux, L'événement, un spectacle de la Comédie française. Il va y avoir des interrogations sur l'antisémitisme avec le texte de Jean-Claude Grimbert, porté par Pierre Arditi et Daniel Russo. Et donc, si vous voulez, ce que je souhaite, effectivement, c'est que nos regards changent et qu'on ne se laisse pas happer simplement par des discours un petit peu de haine, des discours qui, au fond, stigmatisent et oublient toute la part d'humanité que chacun doit avoir.
Il faut vraiment défendre nos démocraties car elles sont plus en danger qu'on ne le pense, dit Jean-Marc Dumontet à propos de cette opération Parole citoyenne. Le théâtre peut défendre, être un rempart pour nos démocraties, pour vous Olivier Neveu?
J'en sais rien, j'aurais tendance spontanément à préférer que le théâtre soit une chose embarrassante pour nos démocraties et pour la beauté de nos démocraties, qu'elles viennent l'interroger. Qu'est-ce que c'est que nos démocraties? Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles se racontent sur elles-mêmes? Je suis très marqué par la pièce Les Paravents de Jean Genet, qui disait une société qui veut camoufler son petit tas de boue est une société qui va se mentir à elle-même. Il y a des petits tas de boue. Bon, après, le discours de Dumontet est merveilleux. C'est un symptôme. On a une liste de cas sociaux, de courses, de drames dont il faut faire thème pour le théâtre. On ne saura rien des œuvres, on ne saura rien de ce que peut être le théâtre. Encore une fois, le théâtre n'a absolument pas à s'empêcher de parler de la radicalisation, des violences sexuelles commises sur les enfants. Évidemment pas, mais ce n'est pas juste un instrument de communication, le théâtre. Est-ce que le théâtre peut produire un savoir propre sur ces choses-là? Est-ce que le théâtre peut apporter quelque chose en propre plutôt que d'être, je ne sais pas quoi, le dépliement des grandes questions thématiques dont les hebdomadaires nous abreuvent semaine après semaine? Mais après, on entend bien dans le discours de Jean-Marc Dumontet. Pour moi, Jean-Marc Dumontet pourrait être le nom du macronisme dans l'art aujourd'hui, dont il est un des conseillers, enfin, occulte, ou en tout cas, je sais pas, il fait partie de l'entourage. il fait partie de la courtisanerie autour du président Macron. On voit bien que il est à l'offensive sur l'espèce de faire tomber la barrière entre le privé et le public. Et puis c'est un symptôme qu'il vienne nous dire aujourd'hui le théâtre privé doit s'occuper des grandes affaires du monde en nous listant comme ça un certain nombre de thèmes.
Ce que peut être le théâtre, avez-vous dit, plutôt que ce que peut faire le théâtre, qu'est-ce qu'il devrait être le théâtre pour vous ?
Je sais pas, puis je me garderai bien de venir dire ce, enfin venir proposer ou
vous
désigner. Vous ne
savez
des
pas,
essences.
Mais vous y avez réfléchi aussi.
Oui, mais je trouve que, enfin, moi, je travaille à partir de ce que proposent les artistes, à partir de ce qu'ils montrent. Il n'y a pas de volonté programmatique. Peut-être j'aurais vu d'autres spectacles, j'écrirais autre chose. Donc je travaille à partir de ce que je vois, et je vois encore une fois des très grandes choses. C'est-à-dire, je vois des artistes qui aujourd'hui s'échinent à faire que le théâtre ne soit pas seulement une caisse de résonance, mais que ou le lieu d'une documentation objective du réel, ou une participer de la confusion entre pédagogie et politique. Je vois des œuvres qui tentent de penser ce que le plateau, la scène peut porter comme coup dans les bagarres qui sont en cours. L'idée, encore une fois, d'être contre le théâtre politique, c'est pas pour empêcher au théâtre d'être politique, c'est de se demander dans les bagarres qui sont les nôtres. Et les bagarres, c'est pas quand je dis politique, c'est pas des dîners mondains pour commenter la prochaine désignation de je sais pas qui. Enfin, c'est pas de l'éditorialisme. La politique, c'est ça à voir avec la transformation radicale des conditions d'existence, me semble-t-il. Et donc, dans ces bagarres-là, qu'est-ce que peut faire le théâtre ? Alors, on peut se raconter qu'il va changer le monde. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il peut tout au plus changer un monde, le monde de chacun, et c'est énorme. On peut se raconter ça, et on peut aussi, donc on peut demander au théâtre ce qu'on demande à une organisation, ce qu'on demande à un journal, ce qu'on demande à une radio. On peut aussi demander au théâtre autre chose. À quel endroit les coups qu'il va porter sont des coups qui vont faire mal à l'adversaire, parce que faire de la politique, c'est accepter d'assumer une certaine part de conflictualité.
Et c'est bouleverser un tant soit peu l'ordre établi. Alors vous dites que la politique peut être aussi dans le petit, extrait avec un spectacle qui a trouvé grâce à vos yeux, celui de Milo Rao.
Vous écoutez une chanson intitulée Nanga Abarutu, je déteste tous les Hutus, et sûrement que vous la connaissez, puisqu'en vérité tous les malheurs qui viennent de s'abattre sur le Rwanda, on pourrait citer le nommé Twahila Mungu Faustin. Ces Hutus modérés qui ont prêté leurs âmes aux Tutsis, ces complices du FPR, c'est eux avant tout qui ont voulu ce pays. C'est eux qui l'ont plongé dans ces insoutenables malheurs. Mais l'arrogance des Ngotani, la RTLM a prouvé plus de 1000 fois qu'il ne tenait que grâce aux énormes sommes d'argent des actionnaires étrangers, et en vérité, il tenait grâce au président Abimana. Voilà, qu'il le ressuscite donc. Mais oui, puisqu'il était une grande protection pour eux. Mais ils ne s'en rendaient même pas compte, et ils ont choisi de le tuer. Alors que le malheur les frappe, oui, que le malheur les frappe, comme il est dit dans la Bible. Malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux.
Voilà, l'idée d'un théâtre en retrait des grandes tentatives. Là, extrait d'une pièce du metteur en scène suisse Milo Rao, Hate Radio, autour aussi du Rwanda. Vous, Olivier Neveu, sur cette pièce, en quoi est-ce un bon cas d'école de ce que la politique peut aussi aller se nicher là où on ne l'attend pas?
Alors dans l'ouvrage, je travaille plutôt sur une autre pièce de Milo Rao qui s'appelait La Reprise.
Mais pas sur l'extrait.
Mais sur Hate Radio, c'est un spectacle absolument passionnant qui arrive une vingtaine d'années après un précédent spectacle qui s'appelait Rwanda 94 de Jacques Delcuvellerie, qui posait la question du génocide au Rwanda, du génocide des Tutsis et du massacre des opposants au Two Power, qui est un spectacle, le groupe OV, j'en parle pour le rétablir dans une histoire, qui est un spectacle passionnant parce qu'il venait interroger est-ce que le génocide au Rwanda est une tragédie. Non, ça n'est pas une tragédie, c'est un génocide, donc c'est un processus politique, donc on pouvait y résister, il était possible de faire autre chose et de vivre autre chose. 20 ans après, Milo Rao propose avec Hate Radio un spectacle qui, alors là pour le coup, s'inscrit de l'autre côté, du côté des génocidaires, et installe le public dans un rapport bifrontal au centre, donc on était de part et d'autre, et au centre nous avions un studio de radio, la radio des Mille Collines, et nous assistions à la représentation d'une émission de la radio des Mille Collines qui appelait au massacre. Et ce que montrait le spectacle, pour le dire très vite, mais je caricature, c'est la glaçante facilité du mal. Pas sa banalité, sa facilité. Comment on peut basculer très, très, très vite. Ce que je trouve assez passionnant chez Milo Rao, dans tout son travail, c'est que c'est un un théâtre qui se donne comme étant potentiellement documentaire et qui ne l'est pas. L'émission qui était proposée à regarder dans le spectacle est une émission qui n'a jamais existé. Il ne venait pas travailler sur l'authenticité de ce qu'il déploie, mais au contraire travailler sur la frontière très trouble entre le vrai, le faux, le simulacre, le possible, le vraisemblable. Et pour cela, son théâtre vient interroger aussi le théâtre, pas dans une sorte de métathéâtralité à la Pirandello, le théâtre qui parle de lui, qui parle de... L'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu est de venir rendre discutable la réalité et pour cela rendre visible les choix de représentation, le drame qui est fait de la réalité et de ce moment effroyable qui a été le génocide avec la complicité de l'État français, etc., etc.
Le pendant au petit, c'est le manque, écrivez-vous. Où est l'éloge du coup du petit pour vous dans ce type de spectacle?
Le petit, c'est pas du tout le minuscule. Le petit, c'est le Castelet. C'est la façon dont le théâtre, même un théâtre gigantesque, convoque dans un cadre des choses qui sont immenses, infinies, gigantesques. Et ce que je trouve passionnant, c'est comment dans ce cadre, qui est une émission de radio reproduite, représentée, on convoque la question génocidaire. Et c'est issu d'une, enfin, ce que cela produit, c'est une dialectique, une immense violence à l'intérieur même de ce cadre qui pourrait presque être un cadre de jeu d'enfant.
On termine avec vos mots, Olivier Neveu. L'alliance du théâtre et de la politique pourrait être cela, faire vivre au gré d'un jeu d'intelligence spécifique, un présent incomparable à celui que rythme la domination. Merci à vous. Contre le théâtre politique vient de paraître aux éditions La Fabrique. France Culture, il est 13h23.
La Grande Table. Le rendez-vous de la médiatrice.
Et tout de suite, le dernier rendez-vous de la médiatrice avec Emmanuelle Davier, la directrice de France Culture. Bonjour Emmanuelle Davier.
Bonjour Olivia.
Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour Olivia. Bonjour Emmanuelle.
Sandrine Trainer, bonjour. Nous allons parler pour ce dernier rendez-vous de la saison qui vient de s'écouler. Comment pourriez-vous la qualifier?
C'est mon questionnaire de Proust.
Exactement.
Je la qualifierais de profonde et réjouissante.
Historique aussi.
Historique aussi quant à ses résultats, réjouissante quant à la dynamique de l'antenne telle qu'elle s'est déployée jour après jour, et profonde parce qu'on a fait face à des enjeux extrêmement sérieux et importants toute cette année et que les journalistes et productrices, producteurs de cette station ont su, je crois vraiment, mobiliser tous les savoirs, toutes les idées, tous les systèmes de création, le théâtre y contribue évidemment pour éclairer différemment ces enjeux-là que peut-être ce qui peut se faire ailleurs.
Quelles ont été pour vous les plus grandes surprises de l'année? Ce à quoi vous ne vous attendiez pas?
Peut-être, il y en a plein.
Alors allons-y.
Je suis toujours surprise.
Allons-y.
Peut-être ce à quoi je m'attendais pas, arrivé par exemple fin décembre, c'était de me rendre compte que alors qu'on disait voilà, tout le monde suit le mouvement des gilets jaunes, le nez sur BFM et les gens vont chercher de l'information immédiate, de nous rendre compte assez vite dès le mois de janvier que non, ce n'était pas vrai, il y avait aussi un nombre croissant de citoyennes et de citoyens qui se tournaient vers France Culture et du reste vers les antennes de Radio France et étaient en recherche d'autres choses, précisément, de temps long, d'explicitation, de matière à penser.
Autre surprise.
Écoutez, nous avions décidé, parce que c'est conforme à ce que nous pensons, nous avions décidé de consacrer une part importante de notre programmation à l'élection européenne, même si elle était contrariée par des tas de raisons, y compris par le mouvement en France dont nous parlions à l'instant. Et au fond, oui, c'était un peu pro-militant, non pas pro-militant d'une certaine Europe, mais de la question européenne et de son importance. Et on dit toujours que les gens, l'Europe, ça les rase, quoi, que dès qu'on met Europe dans un titre, il n'y a personne. Et non seulement il y avait du monde, mais on a fait un forum vraiment formidable, entièrement centré sur cette question européenne. Donc oui, ça aussi, ça a été une surprise de voir tout ce public présent sur ces enjeux de fond, une fois encore.
Sandrine Trainer, combien d'auditeurs écoutent France Culture chaque jour?
Écoutez, si on prend cette année, puisque cette année a été une saison, vous le disiez, historique, c'est de l'ordre de 1 500 000.
Et quel est leur profil?
Alors, c'est 1 500 000. Là, on est en train de parler de vous, auditrices et auditeurs, qui nous écoutez en ce moment même. C'est important de dire que c'est presque 30% de plus que l'année dernière. Plus de 330 000 auditeurs. C'est important de dire que vous êtes deux fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Pour un ancien média, c'est parfaitement
historique.
Étonnant. Ouais,
ce sera le mot de l'émission.
On est à peu près les seuls, et qu'on a été la plus forte progression radio cette année, et vraiment grâce est rendue à l'ensemble des équipes et des auditeurs. Vous disiez le profil.
1,5 million. Alors voilà.
Alors, ce qui est formidable, vous voyez, c'est
parce qu'on a l'image de l'universitaire. Est-ce que c'est faux?
D'abord, l'universitaire, il est pas 1 500 000, vous savez.
C'est vrai.
Il rêverait d'être plus nombreux, mais il ne l'est pas, non. Eh ben, vous savez, Emmanuel, quand il y a 1 500 000 personnes à l'écoute, en fait, il y a forcément toutes les composantes de la société. Pendant longtemps, France Culture a été une antenne assez masculine. Eh ben, pour la première fois cette année, elle est devenue un poil plus féminine que masculine. Elle s'est rajeunie. L'auditeur a perdu 2 ans. Elle s'est...
Quel âge a l'auditeur?
L'auditeur, il a 55 ans. Mmh. Elle a, en moyenne bien sûr, et on s'est renforcé cette année sur les 25-49 ans de manière assez importante, et de l'ordre de 20% des nouveaux auditeurs sont de cette tranche d'âge, et ils sont aussi moins diplômés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et je pense que c'est essentiel parce que la question des fractures culturelles est au moins aussi importante que les fractures sociales, et si on peut jouer notre rôle de service public et apporter de la culture générale au fil de l'actualité, ben, on n'aura pas perdu notre temps.
Vous l'avez dit, l'audience a quasiment doublé. Quelle tranche bénéficie de cet afflux d'auditeurs et d'auditrices?
D'abord, la tranche à laquelle vous participez, cher Emmanuel, par le rendez-vous du médiateur, puisque la Grande Table a été une des grandes sources d'augmentation, de lieux d'augmentation de l'écoute. La matinale, bien sûr, plus 25%. Je crois que... Et par ailleurs, toute l'antenne a augmenté du matin jusqu'au soir, et une émission comme celle de Marie Richeux, Par les temps qui courent, a eu des résultats magnifiques. Je crois que ce cocktail, Fabrice Lucchini nous en gratifiait dans l'émission d'Adèle Vendrette il y a quelques jours, consacrée à Éric Rohmer, et il disait finalement, France Culture, il parodiait une phrase de Barthes, c'est un peu de savoir et beaucoup de saveur. Ben, je crois que ce cocktail-là, qui est à l'œuvre toute la journée, a convaincu tout au fil de la journée.
Alors, au-delà de cette formule très explicite, comment vous, en tant que directrice, vous expliquez ce succès?
Eh bien, je reprendrai volontiers cette phrase, un peu de savoir, même un peu plus, et beaucoup de saveur. Je dirais évidemment beaucoup de travail, un travail de fond, et je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une société où les grandes questions qui nous interrogent tous collectivement, et cette année, on l'a vu, la démocratie, le peuple, le vrai, le faux, ce sont des questions de fond qui sont des questions qui sont faites pour France Culture. Je pense que l'exigence des citoyennes et des citoyens rencontre la nôtre. C'est une rencontre à deux, c'est comme dans les histoires d'amour.
Dernière question, Sandrine Trainer. Vous essayez d'être en adéquation avec une attente formulée par vos auditrices et vos auditeurs, ou bien de créer la surprise et d'être prescripteur sur votre antenne?
Non, bien sûr que non. D'abord, ça n'existe pas, une attente formulée par nos auditeurs.
Non, vous répondez pas à leur attente.
Oui. Non. Enfin, je veux dire, on la rencontre, mais on la rencontre en étant qui nous sommes. Non, il n'y a pas de. Ce n'est pas le produit d'une étude. Non, en aucun cas. C'est un lien autour d'une proposition éditoriale.
Merci Sandrine Trainer.
Merci. Un contrat de 1 à 4 et à plusieurs. Et on se retrouvera donc à la rentrée avec vous, Emmanuel Davier.
Bel été à tous.
Pour le rendez-vous de la médiatrice. Merci à toutes les deux et merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Marianne Escovic et Laura Dutèche-Pérez, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. Et la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Jordan Fuentes. Très bel après-midi à tous sur France Culture.